C'est la deuxième heure de ce 1285e Sweet Home Chicago. L'invité est Joe Calais, avec donc le leader de sa formation du sud-est de la France, Joe Harpo. Nous parlons racines et rencontres, avec l'évocation de plusieurs pèlerinages intéressants aux USA et au plus près du blues dans trois états clés, le Mississippi, la Louisiane, le Texas. On parle rencontres et échanges enrichissants. On évoque le club Anthos d'Austin, des moments privilégiés avec Kim Wilson, Watermelon Slim, Charlie Musselwhite. Le groupe Joe Harpo comporte, outre Joe Calais, chant, guitare, banjo, harmonica, le guitariste Seb Gentil, le bassiste et chanteur Franck Mercier et le batteur Joël Dallavecchia. Leur nouvel album Last Tides of Mayonnaise, au doux et magnifique relent folk et blues, acoustique et électrique, seront largement mis à contribution au cours de cette belle interview pleine de passion, mais aussi d'humilité, un propos documenté et expert de la part de Joe Calais, étayé par moult belles rencontres de l'autre côté de l'Atlantique, avec notamment The Southsiders, Mike Keller, Charlie Musselwhite, et puis ici, en France, avec Youssef Remadna, Arnaud Fradin, Nico Wen Toussaint, les Shaggy Dogs, Vincent Buchet, qui ne manqueront pas d'enthousiasmer les amateurs de blues que vous êtes, vous fera réfléchir sur l'ouverture musicale vers d'autres styles qui s'enrichissent les uns des autres et vous donnera sans doute l'envie d'en savoir un peu plus sur le magnifique quartet Joe Harpo. Voici Lost My Babe par Joe Harpo sur l'album Last Tides of Magnolias. Joe Harpo avec Lost My Babe. Voici cette interview avec Joe Calais.
Je suis au téléphone avec Joe Calais. Bonjour Joe, comment vas-tu?
Bonjour Marc, ça va, merci.
Bon, super, il fait beau dans le sud, hein. À chaque fois que je t'appelle, c'est pas souvent, mais en général, on a du beau temps. Le mot sud, il va revenir souvent dans l'interview, tu vas voir. Ça se passe bien là-bas, tu es de retour des États-Unis, je crois.
Ouais, je rentre centre, ça fait une semaine. On va dire que c'est pas tout à fait le sud, mais on va dire que c'est le début du sud. C'est la vallée du Rhône. Et, je suis basé en Ardèche avec les collègues autour de Valence.
Ouais.
Tournons en Ardèche.
Tournons en Ardèche. Pour nous, le sud, ça commence à Nantes, tu vois, un petit peu. Donc,
ah oui, c'est vrai.
Il y a de la marge. Ici, en Normandie. Jo Calais, donc chanteur, harmoniciste, compositeur, basé donc dans le Vercors, on peut dire ça, ou c'est pas tout à fait le Vercors?
Alors, moi, j'ai vu sur le Vercors, c'est aussi mes racines, donc j'aime en parler. Je suis pas très très loin du parc régional, je suis à 3/4 d'heure, mais voilà, j'aime bien dire que c'est mes racines. On est au pied du Vercors, on va dire.
Une sortie d'album, l'album qu'on va écouter, dont on a déjà écouté un extrait à l'instant et qu'on va continuer à découvrir au fil de cette interview, Jo. Un disque qui a eu sa release party à Bourg-les-Valence. C'est par chez toi, en fait. Hein.
On a eu cette opportunité, en plus, d'être sur un lieu qui programme pas que du blues, qui a un public assez belle programmation et une belle salle, ouais, à l'entrée de Valence, en fait, Bourg-les-Valence. Ça nous a permis d'avoir tous les copains, les gens qui nous suivent aussi de la région. Une belle soirée avec en première partie un artiste que tu connais qui s'appelle Tomek, qui est basé à Lyon.
Oui, Tomek Ziano, oui.
Voilà, donc on avait cette opportunité d'avoir un coplateau pour l'ouverture avec un artiste solo et donc on a invité Tomek à venir. On a pu faire une belle soirée comme ça à partager avec lui.
Très bien. Alors on va parler un petit peu de ton parcours et puis de ta musique, Jo, parce que malgré ta toujours jeunesse, ça fait déjà un bon petit moment qu'on entend parler de toi et ça fait encore plus longtemps certainement que tu joues. Tu étiquettes ta musique blues et folk. Je voulais savoir d'où te vient ton ancrage dans le blues, mais plus précisément dans la marmite de la musique, en fait. On peut remonter à l'enfance même. Hein.
Ouais, alors moi j'ai des souvenirs, bien sûr, d'enfance, mais j'ai pas de musicien dans ma famille. Ouais. Des souvenirs de chant, ma mère chantait beaucoup. Après, j'avais plutôt une tessiture de voix quand j'ai commencé la musique étant ado, qui était plutôt dans les basses. Donc je me suis intéressé rapidement en musique noire américaine. Donc j'ai écouté aussi du rock, mais après, aux alentours des 20 ans, je me suis intéressé à tout ce qui était Chicago blues, blues, plus autour du chant, et je m'accompagnais un peu à la guitare. Puis je me suis mis au fur et à mesure un peu à l'harmo. Le banjo est arrivé il y a quelques années. Ça a évolué au fur et à mesure parce que j'écoute des choses quand même après assez variées. Des artistes qui peuvent être aussi emprunts de blues, mais qui sont pas uniquement dans blues tradi, quoi.
Alors, banjoiste et guitariste, bien sûr, en plus de chanteur, harmoniciste et compositeur, tu es un autodidacte touche à tout ou à bourreau de travail? Est-ce que tu lis la musique, Jo?
Alors, moi, je l'ai lu, on va dire, à un certain laps de temps. Après, je l'ai pas trop pratiqué. Donc, je suis plus à enregistrer, si tu veux. Je pense que j'ai perdu pas mal de choses que je savais lire parce que quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais pu passer un diplôme de ce qu'on appelle les formations de diplôme musique actuelle pendant un peu plus d'un an. Mais je suis entouré de gens qui, par contre, écrivent et lisent la musique et tout ça. Mais moi, j'écris maintenant plutôt spontanément. J'écris mes textes et puis je m'enregistre, en fait, pour les musiques et je pose mes accords. Je me considère pas comme un bourreau de travail. Je joue beaucoup, influence beaucoup et je partage beaucoup avec les musiciens avec lesquels j'ai la chance de partager de la scène et tout. Mais par moment, dans la semaine, voilà, je suis pas quelqu'un qui travaille l'instrument tout le temps, tout le temps.
On va avoir l'occasion tout à l'heure, Jo, effectivement, de parler du processus créatif avec ton groupe Jo Harpo, mais je voulais savoir avant cette création, avant que le groupe n'existe, il y avait d'autres choses, ton parcours jusqu'à la création du groupe Jo Harpo, il s'est passé par Texaco notamment?
Oui, c'est ça, pendant plusieurs années j'ai eu un groupe avec Joël, le batteur avec lequel j'ai la chance de jouer encore. On a eu un groupe qui était plus entre guillemets Chicago Blues avec quelques compos, ce qu'on avait tendance à faire sur les textes, je maîtrisais pas trop, alors je prenais des textes de standards que j'aimais bien ou de titres même moins connus d'artistes que j'aimais bien et on réarrangeait complètement la musique derrière. Et puis au fur et à mesure, après, je me suis orienté plus en plus vers des choses un peu plus folk, un peu avec de la gratte acoustique, parce que je tenais plus la gratte acoustique que de la gratte électrique quand je m'accompagnais. Et au fur et à mesure, comme je te disais, après le banjo est arrivé, parce que c'est simplement comme je suis venu à l'harmonica, c'est un son qui me plaisait. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre au banjo, mais déjà juste pour moi, quoi. Puis après, il a été intégré au groupe. Ouais.
Tout à fait, le banjo qui est sur pas mal de morceaux de l'album, et c'était déjà le cas d'ailleurs dans le précédent, que vous aviez enregistré en 2021. Est-ce que depuis la création du groupe Joueur Pro, est-ce que vous avez connu des modifications dans le line-up? Il y a eu des musiciens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés?
Ouais, alors Joueur Pro, on a démarré en fait sur une formule en trio, sur le premier album. Donc à la sortie du premier album, on a continué à travailler ensemble avec Joël, et puis après, on avait le guitariste de l'époque qui souhaitait partir sur d'autres projets. Et donc Seb, que je connaissais depuis longtemps, Seb Gentil, on avait vraiment envie de travailler ensemble, et lui, il en avait la disponibilité, et du coup, il nous a rejoint tout de suite après la sortie du premier album. On a tourné en trio pas mal de temps, et on a eu une proposition en fait de Franck, qui est à la base un guitariste et qui joue aussi un petit peu de basse. Dans plusieurs formules, il est à la base des guitaristes intervenant en guitare, et du coup, il nous a dit, moi, j'aimerais bien être avec vous si un jour vous cherchez un bassiste, être vraiment en quartet, quoi. Donc du coup, on l'a intégré au groupe il y a un an et demi. Voilà, les nouvelles compositions, les concerts en quartet sont arrivés comme ça. Ça nous arrive de tourner encore en trio, parfois en duo, suivant les configurations ou des demandes, mais le projet est maintenant vraiment en quartet.
Joe, on parlait des États-Unis un instant, je crois que tu vas régulièrement te ressourcer là-bas, plus particulièrement dans le sud d'ailleurs, hein, parce qu'on dit que ta musique est en partie imprégnée du South Side de Chicago, également de la musique du sud des États-Unis. Tu es basé dans le sud-est de la France, au sud de Grenoble. J'ai dit, le mot sud, il va revenir souvent, principalement Mississippi, Louisiane, Texas, c'est ce que tu viens de faire. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas qui n'existe pas chez nous, Joe Calais?
Alors, même si j'ai vraiment plaisir à y aller, à partager avec des musiciens, je trouve qu'il y a forcément sur les États-Unis, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Bah, tu le sais bien, tu y es aussi allé. Par contre, spontanément, je trouve qu'en tant que musicien, c'est la facilité et ces connexions qu'on peut avoir avec des artistes. Il y a forcément aussi des paysages et des choses qui sont ancrées. Je pense à Clarksville, je pense aussi à Chicago, qui sont vraiment, à partir du moment où on s'intéresse à cette musique, il faut aller voir sur place pour vraiment s'y confronter. Et puis, les connexions, elles se font parce que ça joue beaucoup. Moi, c'est toujours ce qui me revient.
Oui.
Même une ville comme Clarksville, qui est restée pour moi encore authentique dans son jus. J'avais été surpris la première année quand je programmais d'y aller 4-5 jours. J'avais vu avec un musicien en local à distance. Je lui avais dit, bah écoute, je vais être bloqué entre guillemets aussi le dimanche. Est-ce que tu penses que c'est pertinent que je sois aussi là le dimanche à Clarksville? Il m'avait dit, non, mais ça joue tous les jours à Clarksville.
Mmh.
Franchement, j'ai connu d'autres villes, bah, notamment, je prends Houston, où il se passe bien moins de choses, surtout pour une scène un peu blues, qu'une ville comme Clarksville, quoi. Et Clarksville, ça joue tous les jours, mais en plus, ça joue des fois même plusieurs fois par jour, tant que musicien. Et donc, je vais d'abord vraiment prendre ça. Ouais, il y a des facilités de connexion, de s'inspirer. Moi, ça m'aide aussi pour écrire les chansons, pour emmagasiner vraiment des choses, les paysages, tout, quoi. Enfin, voilà. Après, il y a aussi plein de fragilités, parce que c'est les États-Unis. Moi, j'ai du mal à parler aussi des États-Unis, parce qu'il y a tellement de différences entre différents États. Là, tu vois, j'ai raconté aux collègues, j'ai fait 3 États ce mois-ci, mais en fait, c'est comme si tu avais fait 3 pays différents pour moi. C'est comme si on avait fait l'Espagne, l'Italie, parce que c'est quand même la Louisiane, le Texas et le Mississippi. Pour moi, c'était 3 ambiances différentes. Mais tout est possible dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses malgré tout très binaires. Il y a aussi une insécurité du statut aussi pour le musicien, t'imagines bien. Pour moi, c'est aussi sortir de cette idéalisation. Il faut aussi, il y a aussi... Et je trouve que c'est ce qui est appréciable aussi, c'est que les musiciens que je côtoie depuis longtemps, ils sont aussi contents de voir quelqu'un qui arrive de France, d'Europe et tout ça pour venir partager. Et c'est marrant de voir aussi comme eux, ils ont aussi une envie de venir, tu vois, chez nous pour vivre aussi la musique et se déplacer. Il y a un côté un peu comme nous, parfois, quand on va dire, le rêve, ce serait d'aller un peu jouer aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup d'artistes, et même des grands artistes qu'on connaît chez nous, qui tournent sur les festoches et tout ça. Ils sont hyper contents de revenir en Europe, quoi. Et revenir en France aussi. Enfin, voilà.
Tout à fait. Il y a quelques exemples comme ça de musiciens français qui font le pèlerinage régulièrement. Je pense à Nico N. Toussaint, je pense à Big Death, Phil Fernandez, puis d'autres, bien sûr. Et comme toi, tu le fais, hein, tu peux nous parler peut-être des rencontres que tu as faites. J'ai lu quelque part, je crois que c'était sur ta page Facebook, tu disais faire partie des Southsiders à chacun de mes passages sur Austin est toujours un honneur. Ça, c'est une phrase qui résume pas mal de choses.
Ouais, parce qu'il y a des communautés de musiciens sur ces grandes villes. Austin, il faudrait plus d'une interview pour en parler, parce que malheureusement, c'est une ville qui évolue beaucoup et pas dans le bon sens du terme, quoi. Au niveau notamment de Sixth Street, qui était la rue principale, heureusement, il se passe d'autres choses sur des gros clubs ou des plus petits clubs. Mais il y a des communautés de musiciens et en fait, Marcus, c'est le chanteur des Southsiders. Il a un peu le même noyau de musiciens avec lui, mais il a tendance à pas mal jouer. Et ça fait partie des musiciens locaux avec lesquels j'arrive à aussi à me greffer à l'armo. Et donc, c'est des artistes en fait que je contacte avant de prévoir mon agenda.
Oui.
Et donc, ça fait des années qu'on se retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, la première année où j'ai joué avec lui, c'est surtout la connexion s'est faite avec Eric, qui est le bassiste que j'avais vu il y a très longtemps quand j'étais jeune jouer avec Sam Myers.
D'accord.
Et Hanson Thunderbird, oui, d'accord.
Ouais, c'était à Salève. Et en fait, la première année où je suis allé sur Austin, c'était en 2008 ou 2009, je tombe sur Eric. Donc, j'étais étonné de le revoir et de partager la scène avec lui, parce qu'il fait partie de Thrash Fighters. La plupart du temps, c'est lui à la basse. Et l'année d'après, ou deux ans après, je tombe avec Wes, qui est Wes Starr, qui est un super batteur dans le réseau, qui est une grosse référence, qui a fait plus d'une centaine d'albums, qui tourne maintenant avec Mark Hummel, qui a tourné avec Kim Wilson, avec Omar Dykes, voilà. Et à un moment, je me suis retrouvé avec les deux en me disant, mais c'est fou, quoi. Je me suis retrouvé avec ce section rythmique. Et c'est ça, la plus-value, c'est d'aller à Chicago et de se retrouver avec Rebel, avec Billy Branch. Enfin, c'est la facilité de pouvoir échanger, de partager, de parfois se greffer sur tout un concert avec des gens comme ça.
C'est ça, facilité de connexion, tu disais, avec les musiciens. Toi, en tant que musicien, tu adores aller là-bas. Je pense également à Dom Ferrer, basé en Normandie depuis quelques années et qui régulièrement fait le pèlerinage à Tulsa. Lui, c'est l'Oklahoma, hein, c'est son truc à lui. Toi, c'est donc le Mississippi, la Louisiane, le Texas. Tu soulignais l'importance de ces états-là, et notamment en taille. On va rappeler, le Texas, c'est plus grand que la France, hein, carrément. Et cette scène à Austin qui existe toujours avec un coffret chez Antones. Tu sais que Antones, ce club mythique, édite depuis bien longtemps des albums pour fêter l'anniversaire de la création. Et 1975, tu fais partie des gens comme ça qui aiment collecter les objets qui viennent de là-bas, que ce soit des enregistrements ou autres.
Ouais, alors, on en avait parlé ensemble. Au fur et à mesure des années, j'ai pu récupérer aussi des amplis, alors pas forcément aux États-Unis, et des micros pareil. Je récupère quelques vieux vinyles aussi, les originaux. Là, j'ai fait pas mal de disquaires, parce qu'ils ont une bonne culture du disquaire quand même.
Mais oui.
Là, sur les 3 semaines de voyage, je crois qu'on a dû en faire 7 ou 8, tu vois, des gros disquaires. Et ils ont une bonne culture là-dessus, donc forcément, t'arrives à dénicher des choses assez sympathiques. Ça fait partie du côté du périple aussi. Et Anton, c'est bien que tu parles d'Anton, parce que c'était quand même tellement un personnage. Le Clifford, moi, j'ai un copain chez qui je suis logé à Austin, qui avait eu la chance de le rencontrer. Il m'avait dit, mais c'était un gars qui vivait vraiment aussi pour ça. Et c'est pas anodin que le club ait continué, parce qu'il y a eu plusieurs déménagements, hein. Ça a été très compliqué. Ça s'est lié aussi à la crise immobilière sur Austin, parce qu'on est en plein centre pour Anton. Donc, il y a Anton's Records, qui est vraiment au nord, qui d'ailleurs, je crois, a été en plus un des sites à un moment, parce que je crois qu'il y a eu 4 adresses différentes au moins.
D'accord, d'accord.
Et là, la dernière, notamment, peut-être que tu es au courant, mais un des propriétaires et ce qui sauve, je pense, la donne, c'est Gary Clark. Gary Clark est propriétaire, en fait, d'une part d'Anton's.
Tout à fait, oui.
Et du coup, le risque, par contre, c'est que tu vois clairement qu'il y a une programmation qui évolue. Malheureusement, ils sont obligés, voilà, il se passe encore du blues. Bah, là, j'ai eu la chance de voir les T-Birds avec Tim Wilson, mais il y a une programmation qui est bien plus éclectique, qui n'est pas que blues. Alors, il y a quand même encore des super artistes. Et puis, tout le monde a un coup de cœur pour ce club. Tu vois, là, quand il y avait Kim Wilson, j'ai pu monter le saluer après le concert. Il y avait la super pianiste, la Marcia Ball, qui était avec lui. Mais ça reste pour beaucoup, en fait, c'est le lieu, même s'il a été déplacé, c'est un peu sacralisé, quoi.
Ça reste un lieu mythique. Et c'est vrai que depuis 50 ans, tu viens d'évoquer Kim Wilson. Ça fait partie de la question suivante, parce que tu as fait beaucoup de belles rencontres là-bas avec des musiciens connus, avec des musiciens locaux ou dont l'aura ne dépasse pas l'état américain dans lequel il travaille. Et puis Kim Wilson, mais je voulais aussi te parler de Waterman & Slim, parce que c'est un garçon important qui nous avait marqué à plusieurs reprises quand il est venu nous voir. Waterman & Slim, quel type de rapport tu as eu avec lui?
En fait, j'avais eu la chance de le croiser l'an dernier, la première fois que je suis allé à Clarksdale. Ouais. Et moi, j'ai 1 ou 2 albums, et en fait, c'était un gars qui m'avait marqué aussi dans ses interprétations, que j'avais jamais vu en live. Et le hasard, c'est que je me pointe au Blues Café le dimanche pour le brunch, et c'était pour voir Massimo, un artiste italien qui passait. Et arrive un gars qui me sert le café, tu sais, comme quand tu te poses pour le brunch, quoi.
Bien
les
sûr.
Personnes, on vient voir si tu veux un café, et c'était lui. Et du coup, on discute un peu, et mon collègue qui vit sur Clarksdale me dit, mais tu sais, en fait, c'est un ami des patrons, et c'est pas impossible, tu vas voir, à chaque fois, il va faire une apparition, quoi, au brunch, quoi. Et donc, il a sorti un armo, il a pris la parole, il a fait 1 ou 2 titres. Et j'ai eu la chance, après, de voir tout seul en acoustique. Et là, moi, il m'a scotché, parce que le soir, il jouait en acoustique. Il a fait, à un moment, peut-être, plus de 30 minutes, juste chant harmonica.
Ah oui,
il avait commencé guitare, 100 armons à raconter des histoires, il a scotché tout le monde.
Ah, tu sais tout faire, hein, c'est vrai. Un type qui a fait beaucoup de métiers différents, hein, tu viens de souligner aussi. Et puis, il a une particularité aussi, Watermelon Slim, c'est que c'est un type extrêmement intelligent. Hein. Il est inscrit au Mensa. Je crois que c'est les gens qui dépassent 152 QI. C'est absolument phénoménal à ce niveau-là.
Ben, je crois qu'il est attachant, il a une vie de paysan à côté. Hein.
Mais oui, paysan, ouvrier, enfin, il sait tout faire.
Ouais. Voilà, et ben du coup, j'avais un brunch qui était calé aussi avec Pierre Frenchy, là, on jouait donc dans le même lieu, donc je savais que j'allais au moins le revoir là. Donc pas manqué, on a pu discuter, on a reparlé de la France, parce qu'il a vraiment un attachement, il parle un petit peu français. Mm-hmm. Voilà, il m'a dit, mais tu leur dis que j'ai envie de revenir en France. Faut toi aussi un tourneur, là, il m'a dit, ouais, il faudrait qu'on arrive à recaler des choses avec lui, quoi. Parce que c'est un artiste qui marque, moi j'ai plein de copains musiciens aussi qui m'ont dit, autant que pour Charlie, ah ouais, mais lui, ouais, c'est un... Voilà,
ça serait
un personnage.
Ouais. Ouais. Ça serait pas un tourneur drômois du nom de Alain Michel par hasard?
Ouais. Alain,
je pense que si.
Emmène-le avec toi dans les bagages.
Si lui s'en occupe, ça va se faire forcément. Il y a un troisième artiste dont je voulais te parler. Évidemment, on va pas tout évoquer et puis on passera tout à l'heure, bien sûr, sur ton album et ta musique. Mais quand même, quand on va à Clarksdale et qu'on peut côtoyer un garçon comme Charlie Musselwhite qui vient de sortir un album absolument superbe qui s'appelle Lookout Highway, qui est d'ailleurs disque du mois pour Sweet Home Chicago en ce mois de juin. Charlie Musselwhite.
Tennessee, my baby took my car, the blues took me. I could have stayed, but I left just the same. You know I'm bound to ramble, 'cause rambling is my game.
Charlie Musselwhite, en quelques mots, Joe, tu l'as rencontré, tu as pu échanger avec lui?
Ouais, en fait, je l'avais loupé l'année dernière parce que j'étais chez Dicarp et je passais du temps chez Dicarp, qui est un super artiste et qui est très copain avec Charlie. Et il m'avait dit, bah, Charlie habite juste là-bas, juste à côté, mais en ce moment, il n'est pas là. Et j'avais repéré tout, c'est-à-dire le bâtiment. Il y a le bâtiment bleu qui est un peu plus loin, qui a servi de pochette d'album, le Delta Tower, qui lui appartient, qui est juste à côté du Grand Zero. De toute façon, tu fais tout en 5 minutes, Clarksdale, tu connais, c'est vraiment fou, quoi. Et en fait, il y avait sa Cadillac qui a servi aussi sur une pochette d'album. Et cette année, eh ben, coup de bol, en fait, on l'a croisé dehors, il était à côté de chez lui, on a échangé, il m'a offert l'album Delta Hardware, c'est marrant, t'avais Guitar Frenchy, il nous a filé, on a pu discuter, pareil, d'une disponibilité, d'une gentillesse, quand tu vois l'artiste que c'est. Et là, c'est pareil, je savais qu'il y avait plein de monde qui le connaissait, pour moi, c'est surtout, tu vois, les artistes qui s'intéressent au blues. Et en fait, quand j'ai partagé la photo aussi sur la page, eh ben, j'ai plein de copains qui sont pas spécialement avec une culture blues, qui le connaissent, quoi.
Ah,
ça, moi, qui m'intéresse. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma vision...
Bah, peut-être aussi du fait qu'il a longtemps tourné avec Ben Harper. C'est peut-être...
Il a fait Ben Harper, ça a aidé, tu vois. Mais je pense que malgré tout, c'est quelque... Ça a sûrement beaucoup aidé, t'as raison. Mais du coup, c'est aussi ma vision du truc, quoi. C'est-à-dire que de pas être juste dans des carcans, tu vois, des trucs enfermés.
Tout à fait.
En plus, parce qu'il y a tellement d'artistes qui mériteraient, ou moi, quand j'ai partagé avec d'autres copains qui n'ont pas cette culture que blues, qui disent, ah bah, tu vois, j'écoute pas que du blues, ou plus spécialement du blues, ça, j'aime bien. Et ça, je trouve que Charlie Musselwhite, ça a beaucoup aidé à ça, quoi.
Oui, c'est un garçon également artistiquement qui a eu une très très grande ouverture. Je ne sais pas si tu possèdes cet album qu'il avait enregistré en 99 qui s'appelait Continental Drifter, où il avait enregistré avec les musiciens cubains comme Eliades Ochoa, etc. Enfin, c'est fantastique. Hein. Ta musique là-bas, puisque tu buffes avec ces garçons à l'harmonica, peut-être au chant aussi, je ne sais pas, à la guitare. Comment est-ce que ta musique, Joe, est reçue quand tu joues là-bas avec eux?
Alors moi, en fait, on partage surtout, tu vois, des titres qu'on élabore ensemble. C'est-à-dire, je fais soit l'harmo, effectivement, je fais aussi du chant. Alors, c'est plus de l'ordre du buff parce que tu as des jams qui se font, mais en fait, c'est vraiment se greffer avec eux, ou alors partage de répertoire où je fais chant harmo.
Ouais.
Après, moi, je fais aussi des allers-retours, c'est-à-dire que là, sur l'écriture, de, par exemple, de mes textes, la plupart du temps, j'écris en français, ce que je fais retravailler et retraduire, notamment avec un copain américain qui vit en France depuis quelques années. Par contre, j'ai des copains ou des musiciens aux US, tu vois, avec lesquels je partage ce que j'ai enregistré. Bah, après, c'est des échanges. Je trouve que c'est l'avantage qu'on a de la musique, c'est-à-dire que, tu vois, tu peux aller dans le monde entier. Si tu fais de la musique, c'est d'abord un rapport de connexion.
Mmh.
Et en plus, cet instrument, l'harmonica, que tu peux avoir dans la poche, ou c'est quelqu'un qui chante, et ben hop, alors les standards ça aide dans le jazz, dans le blues, dans les trucs, mais les gars vont te dire, bah tiens, on a tel répertoire, hop, on fait un morceau dans Lee Wolf, hop, on fait, et c'est la chance qu'on a de voyager et de pouvoir vivre comme ça. Puis l'avantage aussi, parce qu'il y a plein de défauts à ces foutus réseaux sociaux, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est de garder le contact.
Oui, voilà.
Et donc moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je prévois mon voyage longtemps à l'avance, tu vois, je suis parti au mois de mai, mais en fait en décembre je prévois mon truc.
Ouais, c'est d'autant plus important, Joe, que les réseaux, on peut les accuser de tous les maux, bien évidemment, mais continue à garder le contact. Jacques, c'est d'autant plus important par rapport aux Américains. Je pense qu'on n'a pas le même rapport entre la fidélité en amitié ou en tout cas le fait de se passer un petit bonjour régulièrement par rapport à l'Europe, quoi. C'est pas les mêmes choses. On est très très bien accueillis. Tu viens de parler de convivialité, en d'autres mots, mais peut-être que 6 mois après, le mec il va plus te calculer parce que t'es dans un autre contexte, parce que c'est, l'ambiance ne s'y prête plus. Et le fait d'entretenir ça justement avec des contacts réguliers, ça aide quand même.
Ah bah c'est un autre relationnel, c'est clair. Après les retourner sur les mêmes villes aussi, ça aide, mais parce que j'ai un intérêt, tu vois, parce que Austin vraiment. Et tu parlais tout à l'heure aussi des artistes qui sont pas connus en dehors de leur état. Moi j'en pourrais en citer plein, et de notamment aussi un chanteur harmoniciste que j'encourage un jour si tu veux passer un titre de Vinmotte.
Backwater rising, babe, and the rivers they overflow. The backwater rising, babe, and the rivers they overflow. Washed out all the homesteads, now we can't live there no more.
Vinmotte, qui est un gars qui est New Jersey, et il vient de repartir d'Austin parce que je pense qu'il a vécu la crise un petit peu compliquée pour arriver à travailler suffisamment sur Austin. En plus, à la base, c'est un super batteur, mais un chanteur harmoniciste vraiment d'enfer. Vinmotte est parti, mais il y a, en fait, il y a Lindsay Beavers aussi qui était en couple avec Bradley Stevers et qui est Lindsay avait signé avec Alligator aussi au moins pour un album. Ça, c'est des artistes, moi, je comprends pas qu'on les voit pas. Alors oui, ils sont venus un petit peu sur l'Europe, mais pas trop en France, voire pas du tout. Mais il y a énormément, on t'imagine bien, de gens qui, c'est des artistes qui font les premières parties Gary Clark quand il est dans le coin ou sur les états alentours, hein, parce qu'ils sont reconnus même par Jimmy Vaughan et tout ça. C'est des grosses pointures. Il y a un gars qui s'appelle Willie Pipkin aussi qui est très très installé, un mec très discret, un guitariste très installé sur Austin. Mike Keller aussi, avec qui j'ai joué plusieurs fois. Keller qui était dans les T-Birds.
Alors Mike Keller, oui, alors lui, on l'a vu à l'automne dernier à Lucerne, c'était absolument phénoménal. Hein,
ouais, vraiment, lui, c'est un tueur, et c'est un gars très discret aussi, et qui mériterait d'être plus connu, et que tu peux croiser régulièrement, pareil, sur diverses formules. Jason Corbière, c'est un batteur monstrueux, un jeune batteur, qui a été embauché maintenant par Jimmy Vaughan depuis plusieurs tournées, donc il s'est retrouvé côte à côte avec Steve Gadd, Clapton, toute l'équipe de ZZ Top, et alors qu'en fait, après, tu le revois le lendemain sur un brunch, et le mec continue de jouer, parce que la vie de musicien aux US, il y en a plein, bah, ils gardent bien les pieds sur terre et continuent à faire leurs petits plans dans les clubs. Non, c'est vraiment, je trouve que c'est une approche qui est hyper intéressante, à la fois dans les risques en tant que musicien et la fragilité, et à la fois des fois où des trucs, il y a une culture où ça joue. Ouais. C'est la culture où ça joue, et je pense que ce qui fait du bien de retourner là-bas, c'est que vraiment tu es baigné et ça joue. Dans ces états-là, la Louisiane aussi, là, ça joue, et il faut pratiquer, il faut se rencontrer, tu vois.
Voilà, les rencontres et le partage de la musique, c'est ce qui résume un petit peu tout ce que tu viens de dire, et puis la découverte, bien entendu. On a tendance parfois à souligner la disparition de grands, de légendes du blues qui ont 80 ans passés, et on les regrette bien évidemment, mais pour chaque bluesman disparu, il en faut au moins un qui apparaisse, et tu viens de nous donner quelques noms. Est-ce que tu écris un carnet de voyage à ce niveau-là, Joe?
Ouais, bah en fait, depuis le début, moi, à chaque fois que je pars, j'ai toujours un carnet, sous forme de carnet avec moi, et j'écris mes textes, ou des fois, j'écris pas des phrases, tu vois, parce que je suis baigné dans le truc, j'écris une phrase en anglais, paf, deux, trois, des mots, et ça me donne les trucs, et j'emmagasine, en fait, souvent la création, plein d'artistes, que ce soit dans la peinture ou l'écriture de musique, ou peu importe, te disent qu'il y a des phases comme ça où tu en magazines. Et pour les musiques, c'est un peu pareil. Mmh. Et pour l'écriture là de l'album, ça a été aussi sur des titres vraiment partagés maintenant avec Sébastien Gentil, le guitariste, où c'est lui qui est arrivé avec des riffs, notamment pour Believe, ça a été ça, premier single. Like a slap across. Cross the wind, big eyed heaven, on your knees like a raft. sinon, c'est moi qui arrive avec une ossature sur quelque chose, et puis il y a des arrangements qui sont faits après à quatre.
Et ça, c'est ce qui sert de nourriture à l'album, mais est-ce que, au-delà de ça encore, et toujours dans le domaine de l'écriture, est-ce que tous tes écrits, toutes tes impressions que tu notes, est-ce que ça pourrait pas donner lieu soit à un roman, soit à un essai autobiographique ou non, sur tes voyages aux États-Unis?
Ouais, non, je n'avais pas cette ambition et tout ça. Par contre, c'est vrai que ça me fait plaisir de revoir mes tout premiers textes quand j'arrivais à Austin. Il y a des choses qui ont mûri derrière, tu vois, où il y a un morceau qui s'appelle Curtain Close qui est sur le nouvel album et qui est vraiment un morceau sur Austin. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est malheureusement une ville qui a, je redis, mais le centre-ville qui a tellement changé. Et moi, je suis parti en 2008 où j'étais vraiment baigné dans le centre-ville. Aujourd'hui, ça va être de moins en moins le cas. Du coup, bah, pour moi, c'est comme si j'avais pris une photo de cette époque.
Voilà.
Parce qu'on a fait une musique maintenant, là, il y a un peu moins d'un an, on a fini la compo. Mais le texte, il est vraiment de cette époque et sur la rue où j'étais hébergé et tout, quoi. Mais non, après, moi, j'y vais modestement là-bas. Je prends ce que j'ai à prendre. L'idéal, ce serait arriver à faire venir aussi des connexions et des copains ici. Il y a des projets, des réflexions, tu vois, qui mais j'y vais pour prendre ce que j'ai à prendre et partager ce que j'ai à partager.
Pendant que tu nous expliques tout ça, il y a les auditeurs qui sont en train de monter une pétition pour que tout ça soit édité finalement d'ici un an. Je ne sais pas si tu vas relever le défi. Ça pourrait être sympa quand même, non? Jo, je voulais te demander également le fait d'aller aux États-Unis depuis le 20 janvier 2025, il y a eu un changement de président. Est-ce que pour toi ça change quelque chose?
Alors moi, j'ai plusieurs copains qui m'ont fait part de leurs inquiétudes, tu vois, et de leurs grosses réticences. Et en plus, que tu imagines bien que je cautionne aussi leurs réticences et tout. Après, il y avait des choses qui étaient organisées bien avant et leur crainte aussi que je sois un peu embêté au niveau du service des entrées, quoi, on va dire, sur le territoire. Mmh. Moi, j'étais assez optimiste dans ce sens-là où en fait le système américain fait que de toute façon ils connaissent tout sur toi. Malheureusement, c'est pas à balayer d'un revers de main, mais c'est voilà. Et j'ai encore moins été, on va dire, questionné que les années d'avant, tu vois.
D'accord.
Parce que ça, c'était le grand questionnement. Je me suis dit, voilà. J'ai été encore moins questionné, pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient que j'y vais minima tous les deux ans et que j'y étais encore l'an dernier. Mmh. Donc je pense que ça, ils le balayent. Et une fois que je suis rentré sur le territoire, en fait, j'ai rien senti comme climat différent. Si ce n'est que quand tu discutes avec les copains, avec les gens que tu côtoies, les Américains ont souvent été, même des Européens qui vivent depuis plus de 20 ans aux États-Unis et des Américains qui me le disent eux-mêmes, ils sont très binaires. Ils ont des fonctionnements, ils le savent, très binaire. Mmh. Et y compris politiquement. Donc soit ils sont, pour certains, heureusement j'en côtoie pas beaucoup, mais j'en ai croisé quand même, très pro-Trump, ou d'autres, et ça c'est pas une surprise pour voir le profil de Charlie, très anti-Trump, ouais. Tu vois. Et donc, en résumé, j'ai failli tout annuler, tout reporter. Parce que en plus, c'est deux copains américains qui vivent en France qui m'ont dit, ouais Joe, méfie-toi, on voudrait pas que tu sois embêté. Il y a vraiment des gars, voilà, ça craint, qui sont ressortis. J'ai failli tout changer. Et puis en fait, tout était calé. J'ai aussi des copains américains, quand je suis arrivé, qui m'ont dit, t'as bien fait de venir, est-ce que t'as hésité à venir? Parce qu'en fait, on se dit qu'il y a à la fois des choses justes et en même temps, ça nous saoule tellement que ça soit caricatural à cause de ce personnage et qu'on n'a pas envie d'être résumé à ça, parce que c'est une réalité en plus. Donc j'ai bien fait en tout et pour tout, voilà, je vais te dire la vérité, je me suis pas du tout senti après inquiété une fois que j'ai passé le truc. Par
très
contre,
bien.
Pour dire la réalité, il y a un groupe d'Austin qui partait en tournée là. C'est pas forcément un groupe de blues, j'ai plus le nom, mais qui est un groupe qui avait une tournée prévue sur l'Europe en coplateau avec un autre groupe, où le batteur d'origine mexicaine avec des papiers en bonne et due forme sur le territoire américain s'est vu retenir en centre de rétention pour sortir du territoire.
Ah ouais.
Ils ont fait passer. Ouais, je crois qu'il y a encore là. C'était il y a quelques jours. Donc là, c'est de dire comme c'est quand même hyper compliqué, y compris. Donc c'est-à-dire qu'ils menacent le mec, ils disent si vous sortez, ça va être compliqué pour rentrer. Donc ils le gardent. Donc ils sont partis. Enfin, ils sont. En tout cas, je crois que non, ils sont restés bloqués à l'heure. l'aéroport d'Austin sans le batteur.
Ouais, voilà, d'accord. La tournée c'est pas faite alors.
Et non, ils se, je crois qu'ils sont pas partis, mais le coplateau, l'autre groupe est parti et ils souhaitaient bonne suite à l'autre groupe, mais leur copain batteur du coup ouais, est bloqué quoi. Non mais pour dire que voilà, que si la réalité aussi, effectivement des grosses tensions, deux personnes qui si elles arrivent par le Mexique ou si moi mais avec le même parcours, j'étais passé par le Canada, ça peut être très compliqué. Mon expérience à moi n'a pas été malheureuse ou avec plein de questions, mais effectivement, je pense qu'il y a des moments j'ai un collègue qui m'a dit ça a fait ressortir certaines personnalités extrémistes quoi. Ça c'est triste. Alors après j'ai croisé beaucoup de Français lambda, des touristes, des gens qui sont arrivés avec des groupes, ça va impacter aussi le tourisme. Voilà, mais ça a pas été des discussions par contre beaucoup avec des collègues musiciens qui m'ont dit ah là là, c'est bien que tu sois venu. Voilà, eux je pense qu'ils subissent beaucoup hein. Ils subissent ce truc. Il y a un climat particulier avec un autre personnage qui accompagne le président hein, surtout sur Austin hein.
Ouais, mais ça,
c'est, ils ont bien conscience que c'est plutôt lui qui inquiète aussi.
Joe, on va passer à ton album. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la création de ce nouvel album, Joe, pour le groupe?
Alors, il s'est passé beaucoup de concerts, la rencontre, donc l'adhésion avec un bassiste, avec Franck, qui a permis d'ouvrir aussi au niveau répertoire, au niveau arrangement, ce qu'on a pu faire. Beaucoup de scènes. Nous, on n'est pas un groupe de nouveau, un peu comme je le faisais traditionnellement dans mes autres formules, qui répétons beaucoup. En fait, on répète uniquement quand on a de la création, qu'on prépare un nouvel album. Et puis, au niveau de l'écriture, en fait, contrairement à ce qu'on avait pu faire au premier album, on s'est dit on va prendre le temps et peut-être juste faire quelques titres. Tu sais, maintenant ça se fait aussi comme ça, c'est-à-dire qu'avant de faire un album, tu édites un ou deux titres.
C'est ça.
À voir avec un clip. En fait, les compositions elles sont arrivées assez vite, donc on s'est dit pourquoi pas préparer un album. Et on va enregistrer, on a fait une première session en janvier, en début d'année, et ensuite on a pris le temps et la deuxième session est arrivée fin novembre pour faire cet album avec à chaque fois, bah voilà, l'esprit aussi groupe, c'est-à-dire que même si ce nom Joueur Po, c'est un pseudo que j'avais depuis longtemps avant, nous c'est vraiment la notion de groupe qui nous intéresse.
Ça, ça m'amène effectivement à une question importante. Il y a eu des changements, tu viens de souligner, avec l'arrivée de Franck Mercier, notamment pour l'écriture, pour la basse bien sûr, notamment dans le son, les approches musicales. Moi, je note quand même pas mal de différences entre les deux disques, puis des choses qui restent, des choses, des influences bien sûr qui perdurent, mais quand même un espèce de processus créatif un peu différent. Qui apporte les idées principalement? C'est toi ou c'est aussi des autres musiciens à part égale? Comment ça se passe? Vous faites des arrangements ensemble?
Ben, moi, sur ces titres-là, oui, essentiellement, donc ça a été des chants guitare, chants banjo que j'ai pu amener. Ensuite, il y a quelques compositions où c'est un travail avec Seb, le guitariste. Je lui ai dit, tiens, je verrais bien, j'ai un texte, là, je verrais bien si tu peux me trouver un riff un peu dans cet esprit. Hop. Donc, il y a eu deux compos qui se sont faites comme ça. Les arrangements, après, avec Joël, le batteur, et Franck, le bassiste, ça a été à des moments où, je verrais bien ça sur le refrain, ou un passage batterie comme ça. Après, il y a de l'arrangement. Moi, de toute façon, j'ai toujours tendance à dire que je suis pas batteur, je suis pas bassiste, tu vois. Donc, moi, je leur amène la couleur et après, on voit ensemble si la direction, elle est pas bonne. C'est là aussi où c'est l'esprit d'un groupe et c'est important de le garder. Du moment où il y a quelqu'un qui ne voudrait pas d'un nouveau titre sur l'album ou en concert, on ne joue pas. Et c'est pas arrivé. Mais si quelqu'un me dit « Ah, moi, celui-là, je l'aime pas trop, il y a un problème sur ce morceau », on n'enregistre pas, c'est la différence, tu vois. C'est-à-dire
on n'attend pas l'unanimité, il suffit qu'il y en ait un qui soit pas d'accord et hop.
Ouais. Et il y a des morceaux qu'on a abandonnés comme ça au fur et à mesure, en fait, parce que finalement, j'aurais dit, bah tiens, est-ce qu'on fait pas ce morceau-là? Alors, on fait plus ce morceau-là en live, on le rajoute au prochain programme. Bah, en fait, il suffit qu'il y ait un musicien qui dise, bah non, celui-ci, je trouve qu'on a plein d'autres compos qui sont plus intéressantes. Bah, hop, on les fasse. Never blast my vein and I lost my baby. And I lost my baby. Like I'm not spawn, wanna see her bow. I wanna return her to your arms and I lost my baby.
Il y a des compositions, bien sûr, dans le répertoire, l'écrasante majorité, mais lors des concerts, est-ce qu'il y a aussi des covers?
Oui, il y a quelques clins d'œil. On avait tendance à faire aussi le Hand of Sunshine de Bill Withers, qu'on aimait bien faire, hein, sur certaines scènes. Et puis, le morceau de Junior Wells aussi, moi, parce qu'il y a des morceaux auxquels je tiens, comme ça. Donc, on alterne. C'est arrivé aussi qu'on fasse Tiger Man ou Walk With Me, des T-Birds ou Kim Wilson.
Ouais.
Mais après, mais quand même sur de la compo. Quand on joue sur un festival ou pour une heure, sur un set d'une heure, c'est que sur de la composition.
Alors, de nos jours, on consomme la musique sous forme de plateforme, mais il y a encore le support CD. Et puis d'ailleurs, je te remercie de m'avoir envoyé également le support CD, parce que ce qui est important, c'est aussi le choix des morceaux. C'est une dimension de finalité, en fait. Une fois que tout est enregistré, c'est quand même important, de, au moins en plage 1, en plage 2, de choisir des choses un peu marquantes. Et là, vous avez choisi, ou tu as choisi, je ne sais pas, Poor Boy, donc là où il y a un son un peu voilé. Je me demande si tu chantes pas dans le micro de l'armo, d'ailleurs. Je trouvais l'ambiance lourde, une ambiance retenue avec des percussions qui évoquent les chaînes des esclaves, hein, et puis avec une orchestration totalement dépouillée.
I'm a poor boy, I'm a long way from home. I'm a poor boy, I'm a long way from home. Well, 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 I can do, the world can't do me no harm. But I'm a poor boy, I'm a long way from home.
Bon, t'es pas né dans un champ de coton, on est bien d'accord, mais est-ce que tu voulais pas souligner peut-être là l'universalité du blues, Joe, par ce titre, Poor Boy?
Bah, en fait, c'est une chose qu'on a travaillé, parce que c'est un texte, c'est le seul texte qui est pas en compo, en fait, perso. C'était un clin d'œil, effectivement, par rapport au Magnolia, par rapport au Mississippi, il y avait ça, pour l'introduction, pour amener ça. Et c'est d'abord une introduction qu'on a travaillé pour du live, pour une entrée de scène, en fait.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'est que je sois juste avec un tambourin ou quelque chose de rafistolé, et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas démarrer l'album avec ça, en petite intro. Et donc, on l'a fait avec un système de vieux micro à ruban, rajouté un peu après, tu vois, avec un effet roots dessus. Mais l'idée, c'était, bah, comme on l'amène en live, et ben on l'amène pareil pour faire rentrer dans l'album. Parce que la symbolique du Magnolia, le titre de l'album autour du Magnolia, c'est quand je suis allé à Clarksdale, même si l'album, il allait pas avoir qu'une couleur blues, moi, vraiment, Clarksdale, ça m'a marqué aussi. Cette ville, elle m'a marqué. Et en fait, ce qui revenait souvent quand je suis passé là-bas, c'est que le Magnolia, à chaque fois, il est venu dans plusieurs discussions ou de choses que je croisais. Et c'est le nouveau symbole du drapeau du Mississippi.
Mais oui.
Quelques années. Mmh. Ils ont réussi à se débarrasser. J'étais surpris, moi, que c'est mis tant de temps, en fait. En fait, je me suis dit, mais oui, j'avais pas réalisé ça. Du coup, je me suis dit, tiens, je m'étais été noté, justement, dans un carnet. Et j'avais dit, plutôt que de le mettre dans une chanson, bah, j'ai proposé aux collègues, je leur ai dit, bah, ça va être le titre de l'album. Et le travail de la pochette, il a été fait avec Constantin, qui est un artiste harmoniciste talentueux et graphiste talentueux qui habite à Dnipro, en Ukraine, toujours, pas loin des bombes, avec qui j'avais travaillé sur des affiches de joueurs pro. Je lui ai demandé s'il voulait bien collaborer pour travailler sur la pochette d'album, et il a sorti ce Magnolia.
Quand on continue à l'écouter, on tombe sur des titres comme Fayaz, par exemple, qui lui aurait pu figurer, je pense, dans l'album précédent, mais il y a des titres comme Believe qui témoignent d'une évolution dans l'orchestration, avec des vapeurs plus lourdes, l'emploi notamment d'une guitare un peu plus fuzz. C'est ça l'évolution de Joe Harpo?
En tout cas, c'est la complémentarité, parce que c'est l'arrivée de Seb qui a fait aussi l'arrivée de ces sons-là, et c'est une palette qui, pour nous, moi, je voulais qu'il y ait quand même une cohérence dans ces différences, tu vois. Effectivement, c'est bien que tu le soulignes, Fayaz, c'est un lieu dit du Vercors, là où j'ai grandi, bah, c'est en lien encore, tu vois, avec les racines, donc avec le premier album, avec la couleur du banjo. Mmh. Mais Believe, c'est aussi cette nouvelle couleur qu'on amène sur certains titres avec l'apport de la guitare électrique de Seb, quoi. C'est un riff qu'il a écrit, sur lequel après j'ai posé mon chant avec l'armo. Voilà.
Il y a toujours cette ambiance folk et country qui est apportée par le banjo, donc notamment dans le titre Asphalt, qui contient aussi des belles volutes de slide, j'ai trouvé, même si elles sont un peu sous-mixées volontairement.
Time for suitcase to suitcase in my hand. From hotel to hotel, from driving to driver. Bodies on a house, 14 very fragmented, somber, but of nothing. Riffing that comes, hovers less. The lines of the forehead of each town, each minute. Saying goodbye to the first day, some burble of nothing.
On a quand même l'impression que le banjo dans le blues, ça reste assez marginal. C'est peut-être ça qui fait la spécificité du son Joe Harpo, non?
Bah moi, en tout cas, je me pose pas, tu vois, trop de questions. C'est-à-dire que c'est un son que j'avais envie de faire rentrer dans le groupe. Comme à un moment, j'avais voulu me mettre à l'harmonica. Là, ça a été le banjo, et ben voilà, je me dis, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué d'être un peu catalogué. Donc moi, je mets blues and folk, mais en même temps, tu vois, on peut y mettre ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Moi, ce qui me plaît, c'est que des gens viennent te voir, te disent, bah moi, j'écoute pas spécialement de blues, mais ça, j'ai bien aimé, tu vois. Ce qui me plaît aussi, cet été, on repart sur des festivals, et on est sur d'autres types de festivals, pas que du festival blues. L'idée, c'est l'ouverture. Comme je voudrais pas être demain que catalogué dans un truc de country, parce que j'ai un peu plus de banjo, parce que sinon on tombe dans des trucs. J'ai des copains qui font un peu style rockab, ils m'ont dit c'est la cata. Après, si t'es dans un truc, faut que tu tombes après avec des puristes pour faire attention. c'est toujours dangereux.
Ouais. Même s'il peut y avoir des exceptions, tu parles du rockab. Moi, je connais notamment un groupe qui fait essentiellement de rockabilly, mais qui s'est mis un petit peu au blues tout récemment. C'est les Hot Chickens, qu'on voit depuis des années dans les festivals de blues aussi, et même s'ils font des concentres à Harley-Davidson par ailleurs. Pour revenir sur l'album Last Tide of Magnolia à ce jour, quels sont les morceaux de l'album qui ont demandé le plus de temps de travail dans l'écriture ou dans la mise en place?
Ouais, il y a peut-être Asphalt. Il y a des morceaux qui sont très récents, qu'on a pris le temps de. On a pu jouer beaucoup en live et tout ça. Il y a des morceaux qui sont arrivés vraiment sur le tard, mais je dirais Asphalt. Après, il y a un morceau, moi, qui me tient aussi à cœur, c'est celui qui clôture l'album, qui est le deuxième single, Underwater, qui a un titre que j'ai écrit vraiment sur la fin de la création de l'album. Underwater, let it flow time to time. Fresh fog over cold, yes, without ears. Let it flow for calm, smiling on a lady, and keep her smile.
D'accord.
Et je l'ai proposé rapidement, c'est un morceau qui fait 2 minutes, qui est un bout comme ça, et qui aurait pu demander à être un peu prolongé, qu'on va faire plus long en live, et qu'on a eu plaisir aussi à enregistrer, où je leur ai dit, bah tiens, je verrais bien ça, soit on est dans un esprit où on est un peu tous autour d'un micro, mais en tout cas, on essaie de faire quelque chose qui reflète ça. Et Seb, il a réussi à nous sortir aussi un chorus de guitare qui est assez dingue dedans. Mais oui, peut-être Asphalt, et puis les arrangements voix, pour l'instant, voilà, on y travaille aussi, pour qu'il y ait un peu des chœurs qui poussent, c'est des choses que j'aime bien. J'ai la chance que Franck aussi, quelqu'un qui sait chanter, des chœurs, donc voilà, il y a aussi, on a enregistré dans des conditions live encore, hein, tu vois, donc c'est aussi le but de notre musique, hein, donc il y a aussi des imperfections, mais parce que ça fait partie de, moi je reste dans une musique aussi où je me dis, on peut pas être sur des trucs à être des mois en studio, qu'on garde une spontanéité avec des choses qui bougent un peu, quoi, une musique qui bouge.
Alors le micro à ruban, les photos à collodion, les conditions live, est-ce que ça va jusqu'à enregistrer en analogique, Jo?
On a trouvé des conditions de studio qui nous convenaient bien, sur un lieu qui nous convenait bien mais qui n'était pas équipé comme ça. Ouais, après ça serait en réflexion, hein, c'est sûr, c'est pas mal.
Les titres de l'album sont généralement courts, hein, j'ai regardé, ça n'excède pas 4 minutes, on est sur un format single pratiquement à chaque fois. Il y a deux questions là par rapport à la durée des titres. Est-ce que c'est un parti pris d'abord, et puis est-ce que vous conservez le même type de structure en concert ou est-ce qu'ils sont un petit peu rallongés quand même?
Non, ça peut être rallongé, comme le titre que je t'évoquais tout à l'heure qui clôt l'album, suivant les durées de chorus, des retours, non, c'est pas... Là en fait on fait ça aussi par rapport à l'histoire qui est racontée par rapport au chant. Moi je crois que c'est aussi ça, faut pas oublier qu'on raconte aussi une histoire, et après bah du coup c'est ça les arrangements aussi, c'est de se dire bah ce riff, est-ce qu'on remet le riff d'intro, est-ce qu'on remet un break ici, mais une fois qu'on a raconté ce qu'on avait à raconter, pour moi le morceau à piste termine, quoi. Mais en live effectivement le morceau peut vivre plus longtemps, et souvent c'est ça,
et de façon différente j'imagine en fonction du de la réponse du public. J'ai une dernière question à propos de l'album, Jo, je voulais savoir d'où vient finalement, mais tu as un petit peu répondu quand tu parlais des États-Unis tout à l'heure et de la facilité de connexion avec les musiciens là-bas, et je voulais savoir d'où vient l'impression de facilité naturelle qui est dégagée par l'écoute du disque. On sent qu'il y a eu du travail, bien sûr, mais ça déroule tellement aisément que c'en est presque insolent pour les groupes qui passent 2 mois en studio, non?
Bah, moi, j'ai la chance d'être vraiment avec des collègues avec qui on s'entend bien, tu vois. Je pense que ça y joue. On est sur la même longueur d'onde. Je pense que le peu d'expérience que j'ai aussi, c'est de me dire maintenant, il faut faire attention aux compromis. C'est pour ça que je te disais, c'est comme moi, j'ai un rapport à la peinture aussi, et du coup, je me dis, c'est comme peindre un tableau à 4. S'il y en a un qui veut mettre du bleu et qu'il y en a un des 4 qui est pas intéressé, ça peut pas faire un beau truc, quoi. Donc c'est ce qui fait qu'après c'est naturel et spontané et que ça fonctionne, que les gens ils les ont envie, on est sur la même longueur d'onde. Enfin, il y a de l'expérience chez mes collègues aussi, dans tous les sens du terme, parce que c'est de l'expérience humaine. On fait beaucoup de routes, donc faut s'entendre aussi. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se sente frustré parce qu'il aimerait plus chorusser, il y en a un qui voudrait plus ça, tu vois, donc on en parle. Et c'est pour ça que je disais, si cet été par exemple il y a quelqu'un qui me dit bah non mais il y a un titre, moi je m'y retrouve pas, et ben on ne jouera pas, tu vois. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, tout à fait,
mais dans la musique ça y participe, ça déroule plus facilement.
Et donc ça vient aussi du fait que, ben, il faut le rappeler, Joe Harpo c'est un groupe, c'est-à-dire que les musiciens qui enregistrent sont les mêmes que ceux qui sont sur la route. Ça paraît évident, ça paraît tellement évident, je suis sûr que tu t'es même pas posé la question, mais il y a des groupes interchangeables, il existe des groupes qui prennent des musiciens de studio pour enregistrer, puis qui ensuite tournent avec d'autres, enfin voilà, et ça fait la différence aussi.
Ouais, ça fait la différence. Après, nous, on a quelques fois, parce qu'il y a certaines dates où on joue beaucoup, donc le batteur, parfois, peut être remplacé par David Laurent, qui jouait déjà avec nous sur le premier album, pour deux titres. Sinon, oui, le groupe, c'est le groupe. Pour moi, c'est pas concevable, celui qui est en studio, enfin, celui qui enregistre. Mais c'est les organisateurs, te le disent, ça, d'ailleurs, maintenant, depuis quelques temps. Ils veulent voir des morceaux live ou des vidéos, parce que souvent, ils se sont fait piéger avec des projets qui ont été vendus.
Mais oui.
Et ils se sont retrouvés, alors, moi, j'ai même eu encore un gars qui m'a dit, il s'est retrouvé avec un duo, alors qu'il avait signé un quartet, quand même. Donc, c'était pas
c'est fort.
Là, c'est fort de cacao, faut y aller. Mais non, que ça soit pas la même équipe. Alors après, ça peut bouger des fois. Mais par contre, clairement, c'était des musiciens de studio.
Oui, en tout cas, on a la correction de prévenir et puis d'expliquer. Attention, c'est pas le même batteur que sur le groupe quand on joue dans un endroit, dans un petit endroit ou dans un festival. Des questions sur les projets maintenant, Joe. Les concerts. Alors, nous sommes le 28 juin. L'été est déjà commencé. Quelles sont les dates importantes qui pourraient intéresser nos auditeurs pour venir voir Joe Harpo en live?
Alors, pour l'actualité, il y aura d'aller aussi sur le site internet.
Alors, joharpo.com.
Ouais, voilà. Donc, plusieurs festivals. Donc, on a festival blues, mais pas que, mais festival jazz aussi. On a jazz sur un plateau fin juillet en Sud-Ardèche. On a plusieurs scènes d'été. Là, on a un festival aussi, je crois que ça c'est au mois d'août, à Chavanou, 74. L'Athéna Blues Festival, qui est plus dans le nord, qui est en novembre. On joue avec Malten Milk aussi. On est très contents de.
Ah oui.
Parce que Arnaud Fradin, c'est un artiste que j'aime beaucoup. En première partie à Romans, ça c'est mi-novembre. Puis je reviens encore un peu en arrière, mais on a plusieurs scènes, notamment le théâtre de Verdure à côté de chez nous aussi à Grasse, dans un très beau théâtre cet été, je crois que c'est le 11 juillet, au moment où on se parle aussi, on a pu faire Satoné Blues Festival à Lyon aussi. Donc ça,
c'est un festival qui existe depuis pas mal de temps. On peut retrouver toutes les dates, Joe, sur joharpo.com, hashtag news. Et puis j'avais encore deux petites questions, pas forcément au projet, mais en tout cas par rapport à ton ressenti et à tes envies pour plus tard. Une collaboration avec un garçon comme Youssef Revadna, ça serait envisageable?
Oui, mais alors là, là, c'est un point sensible parce que je préfère rester en bas de la scène et regarder Youssef.
Alors, il y a ça, il y a faire sa première partie, et c'est bien aussi. Et puis, il y a aussi, pourquoi pas jouer avec lui. Enfin, il y a Mike Green qui le fait, pourquoi pas toi?
Non, mais moi, j'ai tellement de. C'est plus que de l'estime que j'ai pour Youssef. Youssef, pour moi, c'est difficile de catégoriser, mais ça reste pour moi l'artiste français, chanteur, harmoniciste. Mais peut-être en plus parce que ça m'a touché jeune. J'ai Youssef m'a laissé une place un soir sur scène comme ça alors que je débutais et il m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un, je suis toujours étonné, j'ai malheureusement pas la chance de le voir en live, donc je regarde des vidéos, des choses, je trouve que c'est Youssef, quoi. Et le personnage avec aussi son humour, avec toute sa culture, ce feeling, ce chant, c'est quelqu'un d'énorme pour moi, vraiment. Et c'est pour ça, on a la chance, mais Nico Wayne Toussaint, que j'ai vu il y a longtemps aussi, ça fait des artistes d'une énergie, je trouve on a la chance d'avoir aussi en Europe. Moi j'aime beaucoup aussi les Shaggy Dogs. C'est devenu aussi des amis, mais parce que c'est aussi des gens qui sont pas dans un créneau qui va être que blues, mais je trouve qu'il y a une énergie qui est donnée et il faut voir aussi où ils arrivent aussi à réaliser, à se déplacer, à aller sur l'étranger, mais à aller sur d'autres, à ouvrir d'autres choses. Et je trouve que ça, c'est des, moi j'aime bien les gens comme ça, qui se déplacent aussi comme ça et qui se déplacent ailleurs et qui ouvrent, tu vois, la musique sur laquelle toi et moi on a commencé à s'intéresser, mais qui a ouvert tellement d'autres portes. Et Shaggy Dog, c'est ça.
Et qui sont des gens inspirants, hein, en tout cas, tous les gens que tu viens de citer, effectivement. Comment est-ce que tu te situes, justement, toi, par rapport au reste de la scène blues francophone ou de la scène musicale francophone?
Moi, je fais mon bout de chemin parce que, je te dis, je reste modeste. J'ai du mal à me définir comme un artiste blues parce que quand tu écoutes ce qu'on fait, tu vois, je ne voudrais pas qu'après, un jour, il y ait des puristes qui me disent « Bah non, mais c'est pas vraiment blues » ou c'est pas parce que, tu vois, avec le banjo, je fais juste ce que j'ai à faire. Moi, je sais pas si je fais partie du... Ce qui me touche, c'est on a le Old Blues Club pas loin, donc j'aime bien des lieux comme ça. J'ai une affection aussi pour des... je te le dis aussi, pour des gens comme toi dans les radios, des personnages aussi de festivals qui se battent, comme Gilles, comme Antonio Amat, voilà, comme Brigitte aussi pour le...
Alors Gilles, c'est Gilles Boncourt à Oraison, hein, c'est
Gilles
ça
Boncourt, voilà. Ouais. Il y a plein de personnages comme ça, dans le bon sens du terme, quand je dis personnages, des gens qui sont autant des radios que de Blues Magazine. Ça, par contre, ça me touche et je veux bien en être de ça. Mais après, j'ai toujours un peu peur des barrières et des trucs parce que, justement, j'ai pas l'impression d'avoir des légitimités, des choses... Moi, je suis juste mon truc, fais ma musique qui s'ouvre le plus, le maximum, et c'est tout, quoi.
When you say don't worry, it's like a dynamite for me. When you say we won't stay too long, out of a song of frogs. Song of frogs on my window, and I choose to lock my door.
J'ai une toute dernière question pour toi, Joe Calais. C'est très ouvert, tu vas voir. Quel message est-ce que tu souhaiterais passer aux auditeurs de Sweet Home Chicago ?
D'écouter le maximum de choses qui pourraient se dévier à toute la musique qu'on aime à la base, tu vois. Parce qu'on peut aimer Slim Harpo, on peut aimer du Muddy Waters, on peut aimer du Little Walter, du Bill Walter et tout ça. Mais il se passe tellement de choses. Il y a tellement d'artistes, et donc y compris en Europe. Parce qu'en Europe, il y a quand même des sacrés groupes, quoi. Et puis Diane Blue-Shacks aussi, tu vois. Enfin, moi, je connais pas tout, mais il y a tellement d'artistes. Et donc aussi dans les nouveaux trucs qui se font aussi aux États-Unis, mais en France aussi. Mais c'est d'ouvrir, de s'ouvrir. J'ai découvert plein d'artistes comme Willie Watson aussi, qui est un gars qui est pas du tout blues, mais qui chante au banjo, sur lequel je pense que vraiment. Et je crois qu'après, même toi, tu passes pas que des choses traditionnelles. Hein, il faut.
Oh là là, non, loin de là. Bien sûr.
Et voilà. Et c'est pas renier si tu veux ça, et c'est très bien à des moments qu'on fasse. Mais il y a vraiment des choses étonnantes et des artistes qui continuent.
On est bien d'accord que quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Maintenant, les deux sont pas incompatibles. Évidemment, moi je respecte les camarades qui font de la radio avec uniquement des chanteurs morts, moi ça me dérange pas, mais il faut aussi ouvrir vers le présent, vers l'actuel et puis le futur, hein. Je te disais tout à l'heure, quand un bluesman disparaît, il en faut d'autres par derrière, et j'ai pas l'impression qu'au niveau du nombre, le compte soit là, et j'ai l'impression aussi qu'au niveau du public, c'est un petit peu difficile, quoi. Le public blues vieillit, et je crois qu'il faut vraiment vraiment ouvrir non pas seulement aux autres musiques, mais également aux autres générations.
Ouais, mais d'où l'intérêt un peu, ce que je te disais, c'est-à-dire que à la fois de passer pas que sur des festivals blues, c'est-à-dire d'aller tu vois, nous on fait encore 2-3 festivals cet été où on va passer le même soir, il va y avoir un groupe de rock festif après nous, tu vois, ou avant nous il va y avoir un groupe un peu reggae, un peu, mais c'est pas grave, c'est le choix de la programmation. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est ça. Il y a plusieurs années, on avait eu la chance d'intervenir en prison, et on avait eu l'idée, c'est aussi d'échanger autour des titres qu'on faisait. Et à l'époque, avec Texaco, on reprenait pas mal de standards, du coup on avait parlé de ça. L'idée, c'était de parler un peu des artistes de blues, de l'évolution du, un peu modestement, mais je racontais un peu au niveau du Chicago blues, de tout ce que Muddy Waters ça avait amené. Et j'ai plein de gars qui étaient venus me voir, qui m'avaient dit, moi j'ai jamais écouté de blues, moi j'aime pas le blues, machin, mais vous j'ai bien aimé, tu vois. Et ben ça, il y a plein de copains musiciens qui me disent la même chose, qui me disent, tu vois, quand on va sur d'autres festivals aussi, c'est qu'on a cherché d'autres publics, parce qu'il y a ce truc un peu connoté. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que ça a tellement évolué, et on a tellement d'artistes aussi en France qui se sont ouverts à d'autres choses, tu vois. Et tu parlais de Ben Harper tout à l'heure, l'album avec Charlie aussi, il est bien pour ça.
Oui, il y en a eu deux albums avec Charlie, oui.
Ben ouais, et ben il y a plein d'artistes qui sont allés écouter du Charlie Musselwhite après ça, tu vois.
Bien sûr.
Gary Clark, il a une culture de fou. Mais tu t'écoutes les derniers trucs, il y a des trucs de Gary Clark que moi j'écoute pas, parce qu'il est sur d'autres sphères musicales. Mais par contre, quand il faut qu'il en joue, tu vois, et quand il est revenu autrefois à Austin, il met la gifle à tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que après, on va aller piocher. Moi, c'est ma vision de la musique, de pas être enfermé.
Voilà, et c'est la vision aussi de certains programmateurs de festivals, comme par exemple Cognac Blues Passion avec Michel Roland, qui fait ça depuis de nombreuses années et qui permet à des publics pas blues d'aller en écouter quand même.
Ouais, les passerelles, tu vois. Il peut y avoir, il y a tellement des trucs world aussi. C'est Vincent Boucher qui fait des trucs hyper hyper world en fait aussi.
Oui, tu vois, complètement, complètement.
Tu vois, et ça reste. Moi, il y a des puristes qui me disent, mais c'est fou, quoi.
Et pas seulement c'est avec son travail avec Tawara Vao, mais avec encore d'autres choses. Enfin, oui, il m'a été donné de l'interview également, et on peut découvrir des tas de choses sous les lèvres de l'harmonica de Vincent Buchet. Il y a plein d'artistes comme ça. Tu parles de passerelle. Oui, voilà, Delgrès encore.
C'est un exemple.
Donc, ton dernier mot, c'est l'ouverture, Joe, c'est ça.
Ouais, je pense qu'il faut qu'on continue. C'est ce qui nous sauvera, Marc.
C'est une bonne conclusion. Merci pour tout, Joe Calais. On va te retrouver, bien sûr, sur le site internet joharpo.com pour les prochaines dates. Et puis, cet album qui s'appelle Last Tides of Magnolias, qu'on peut se procurer sur le net et puis également sur les concerts. C'est bien ça, Joe.
Ouais, c'est ça. Merci encore. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci à toi, Joe Calais. On a pu écouter à travers cette interview Joe Harpo avec Fayant également, The Southsiders pour Born in Chicago, Watermelon Sleep avec The Archetypal Blues, Charlie Musselwhite pour Rumbling Is My Game, Vin Mott et Dave Lockhart avec Backwater Blues, That Means the Old Twister, Mike Keller, Bubba McCoy, Jason Corbière, Willie Pipkin et Mike Marshall Hood avec un extrait du live at Austin Beer Garden Brew Pub, et puis Joe Harpo pour Believe, Curtain Closed, Lost My Babe, Poor Boy, Asphalt, Underwater, Don't Worry, et puis là en ce moment c'est Freight Train qui conclut ce 1285e Sweet Home Chicago. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, Jackie Beatles Emery pour le numéro 58 de Beatles Song Story et Coco Montoya, une interview captée lors du dernier Coutances Jazz sous les Pommiers Festival. Salut, bye bye.